Bonjour à tous et bienvenue sur Calade. Au sommaire de notre journal local et régional. Travaux d'aménagement, opération d'une déviation au sud-est de Belleville en Beaujolais. Frédéric Pronchéry, conseiller départemental du Rhône. La CRIRAD, mine d'uranium en France. Joint par téléphone Bruno Charéron, directeur du laboratoire de la commission de recherche et d'information indépendante sur la radioactivité. Et en conclusion, l'eau urgence de demain, Michel Réguillon, président des canalisateurs du Sud-Est, nous invite à la réflexion. Calade, le journal. 75% des Françaises se disent favorables au nucléaire, selon un sondage de l'Institut réalisé par le JDD. Et ce pourcentage est majoritaire, quelle que soit la classe d'âge ou le parti politique, extrait d'un article de Mariam Hainaut. Pour le JDD. La raison de cette opinion majoritaire, la crise qui a remis le débat de l'indépendance énergétique de la France sur la table, mais aussi ses répercussions sur le coût de l'électricité et donc sur le pouvoir d'achat. Bernard Laponche est ingénieur polytechnicien, physicien de formation, ancien ingénieur nucléaire au commissariat à l'énergie atomique. Il est désormais consultant international dans les domaines de l'énergie, de l'efficacité énergétique et membre des Actions Global Chance et Énergie Partagé. Il confie pour le quotidien Reporter, le parc nucléaire d'EDF traverse sa pire crise depuis sa naissance. L'enlisement du chantier de l'EPR de Flamanville, les arrêts en chaîne de réacteurs à cause de problèmes de corrosion et de fissures, les problèmes aux usines Orano de retraitement de la Hague et de fabrication du MOX à Marcoule, EDF au bord de la faillite. Entre 2010 et 2020, près d'une centaine d'incidents se sont produits sur l'ensemble du parc. Les émissions de gaz à effet de serre par le nucléaire sont loin d'être négligeables. Les fissions nucléaires dans un réacteur à fonctionnement à l'origine de l'énergie produite n'émettent effectivement pas de CO2. Mais l'ensemble des activités nucléaires dans une centrale, en fonctionnement ou lors des arrêts pour les travaux de maintenance, si. Ces activités engendrent aussi très souvent des fuites de gaz très actifs sur le réchauffement climatique, comme les fluides frigorigènes et surtout l'hexafluorure de soufre, l'extraction de l'uranium des mines du Canada, du Niger et du Kazakhstan, la construction des usines et centrales nucléaires, la fabrication des combustibles nucléaires, les transports et entreposages des matières et déchets radioactifs émettent aussi des quantités considérables de CO2 et autres gaz à effet de serre. Aujourd'hui, le nucléaire ne représente que 10% de la production électrique mondiale et ne permet d'éviter que 2,5% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Pour qu'il contribue significativement à lutter contre le changement climatique, il faudrait multiplier par 5 au moins sa part dans le mix électrique mondial. Impossible techniquement, même en 50 ans. Précise Bernard Laponche, ingénieur politicien physicien de formation, ancien ingénieur nucléaire au commissariat à l'énergie atomique. Pour le quotidien Reporter. Travaux d'aménagement d'une déviation au sud-est de Belleville en Beaujolais. Le futur contournement permettra la liaison entre la sortie de l'autoroute A6 au rond-point de la RD 306 en provenance de Saint-Georges-de-Renens. Son utilité est d'irriguer le trafic routier des zones industrielles et d'apaiser ainsi les circulations du centre-ville. Les explications de l'opération avec Frédéric Pronchéry et également maire de Belleville.
Dans le cadre de travaux, il y a forcément des sondages. Donc les sondages, c'est des rectangles qui sont creusés, mais une multitude de rectangles, je crois que là il y en avait 250 ou 300, qui permettent de voir s'il y a quelque chose d'intéressant. Ces sondages débouchent sur des fouilles potentielles. Partout où les sondages ont révélé quelque chose, ça débouche sur des fouilles. Donc là, le département met quand même une somme conséquente, mais c'est la loi, le département respecte la loi. Gros travaux, si les sondages donnent quelque chose, ça entraîne des fouilles. Donc ces fouilles, on en a le résultat aujourd'hui, ça remonte à l'époque antérieure à notre début de calendrier. Et donc, vous voyez, des traces de poterie, des traces des premiers réseaux vraiment organisés de déplacement par les Romains, etc. En fait, c'est à la charge du maître d'ouvrage. Et donc, en l'occurrence, le département la finance en grande partie, c'est lui le maître d'ouvrage de ce contournement. Alors, la communauté de communes participe, la ville de Belleville en Beaujolais participe, mais c'est le département le maître d'ouvrage. Et donc, c'est lui qui finance. C'était 1,5 million. Non, c'est des sommes très conséquentes qui sont supportées par les maîtres d'ouvrage. Ça fait partie des règles, donc on s'y plie. De toute façon, on ne peut pas faire des travaux sans passer par cette cause-là. Mais en fait, quand il y a des des sondages et des fouilles, à moins de tomber sur quelque chose d'énorme au niveau historique, après, les travaux reprennent leurs droits, les relevés ont été faits, les pièces intéressantes ou qui vont être analysées, parce que vous voyez bien que ces choses-là, montrées au grand public, elles n'ont pas d'intérêt. C'est les scientifiques après qui travaillent. Donc après, les sites sont rebouchés et les travaux peuvent reprendre leur cours. Donc on va dire que fin octobre, normalement, tout sera rebouché. Et puis après, le département est en pleine consultation et va lancer les travaux. Et donc, les travaux vont tracer la voirie. Donc c'est ce qu'on appelle couramment le contournement sud de Belleville, qui va le relier ce rond-point de Fontenailles, qui lui-même irrigue la plus grande ZAC du Rhône, hein, en branchable ferroviaire, à l'autoroute. Donc il y a un tout petit peu plus de 2 km de voirie qui vont arriver jusqu'à l'échangeur d'autoroute de Belleville en Beaujolais.
Donc pour éviter en quelque sorte de passer peut-être dans le centre,
voilà,
c'est ça.
L'ensemble des flux routiers, principalement les camions, mais également des véhicules particuliers, va passer par le contournement de Belleville. Et donc quand Belleville en Beaujolais est quand même bien équipée, alors c'est une compétence de la communauté de communes, tout ce qui est zone économique, mais en fait on a trois zones sur Belleville en Beaujolais avec des zones industrielles, et elles sont... Pour certains, les routiers empruntent des voies qu'ils ne devraient pas. Donc là, celle-ci sera la plus courte pour eux. Donc forcément, ils vont l'emprunter et on va les obliger à l'emprunter de toute façon pour irriguer les zones industrielles.
Et c'est peut-être aussi sécuriser aussi les habitants avec des infrastructures qui sont très utilisées.
C'est ça. Indirectement, à partir du moment où vous créez un contournement, c'est justement fait pour apaiser des circulations en centre-ville. Alors d'autant plus maintenant où on parle de mobilité active, hein, la pratique piétonne, le vélo, etc. Si vous voulez favoriser une ville apaisée, où tout le monde n'est pas en guerre les uns contre les autres avec les différentes pratiques de mobilité, eh bien, le but c'est que les gros transports soient canalisés sur des artères spécialisées.
Travaux d'aménagement d'une déviation au sud-est de Belleville en Beaujolais. Le futur contournement permettra la liaison entre la sortie de l'autoroute A6 au rond-point de la RD 306 en provenance de Saint-Georges-de-Renens. Son utilité est d'irriguer le trafic routier des zones industrielles et d'apaiser ainsi les circulations du centre-ville. Les explications de l'opération avec Frédéric Pronchéry et également maire de Belleville. Le cri d'alerte de la CRIRAD, de la Commission de recherche et d'information indépendante sur la radioactivité concernant les mines d'uranium en France et des déchets radioactifs abandonnés dans l'environnement. Joint par téléphone Bruno Charéron, il est directeur du laboratoire de la CRIRAD.
C'est que des déchets radioactifs, des résidus d'extraction de l'uranium, qui sont vraiment des déchets radioactifs, leur activité, on en a analysé un échantillon, c'est de l'ordre de un peu plus de 200 000 becquerels par kilogramme. Donc ce sont des déchets radioactifs de la catégorie FA à vie longue. Eh bien, ils n'ont absolument rien à faire dans l'environnement. Et ce qui nous choque d'autant plus, c'est que la présence de ces résidus d'extraction de l'uranium qui sont sous la responsabilité d'Orano, l'ancienne Areva, eh bien, nous les avions déjà découverts au même endroit en 1998. Nous avions déjà dénoncé leur présence par voie écrite, par un rapport qui est en ligne toujours sur notre site. Nous l'avons refait de façon médiatique dans les années qui ont suivi avec une équipe de Canal+. Là, cette fois-ci, cette présence de ces déchets radioactifs a été filmée par une équipe de France 3. La question qu'on se pose, et le cri que l'on lance en quelque sorte, c'est de dire comment c'est possible en France que des déchets radioactifs soient dans l'environnement, là, au bord d'un chemin où des gens se promènent, et que ces déchets soient toujours présents des années, des décennies après que l'on ait déjà témoigné de leur présence. C'est vraiment une histoire à dormir debout qui est profondément choquante. Que fait Orano, qui est quand même le responsable de ces déchets? Que fait l'administration française? Que fait la préfecture? Que font les autorités? Comment est-ce possible en France? C'est vraiment une situation qui est déprimante, qui est choquante, et il faut que ça change.
Joint par téléphone Bruno Charéron, directeur du laboratoire de la CRIRAD, la commission de recherche et d'information indépendante sur la radioactivité. Il intervenait dans le cadre d'une réflexion des déchets radioactifs abandonnés dans l'environnement. L'eau, urgence de demain pour les canalisateurs du Sud-Est, les enjeux de la gestion du patrimoine pour un meilleur rendement des réseaux. C'est une discussion par téléphone avec Michel Réguillon, président des canalisateurs du Sud-Est.
les mesures de restriction, bien entendu, qu'il y en a qui sont envisageables. Nous, dans notre profession, on n'est pas là pour mettre en place des mesures de restriction. Les mesures de restriction, c'est des choix politiques. Nous, on n'est pas dans le choix politique. Nous, on est simplement en train de dire, c'est que, bien sûr qu'on peut réduire les consommations. On peut réduire les consommations chez tous les abonnés, on peut réduire les consommations des agriculteurs, on peut réduire les consommations des industriels. Pour ça, il y a tout un tas de méthodes qui existent, qui ne sont pas les mêmes d'ailleurs. Hein, pour les riverains, ben, il faudrait mettre des robinets mousseux. Pour les agriculteurs, il faut qu'on arrive à trouver d'autres ressources, peut-être des ressources qui sont liées aux eaux pluviales, de faire des bassins de stockage. Pour les industriels, sûrement réduire la consommation d'eau sur leurs machines. Alors, bien sûr qu'il y a des solutions qui existent, bien sûr qu'on va devoir peut-être être incité à réduire ces consommations. Peut-être que le gouvernement va mettre en place un certain nombre de choses. On vient de nous expliquer qu'on doit réduire de 10% notre énergie, les entreprises. Eh bien, on va peut-être aussi expliquer à tout le monde qu'il faut qu'on réduise de 10% les consommations d'eau. Mais ce n'est pas parce qu'on aura réduit de 10% les consommations d'eau qu'on n'aura pas les 20% qui sont perdus. Il faut jouer sur les deux sujets. Il faut à la fois réduire les consommations, mais augmenter la ressource.
L'eau de consommation va-t-elle augmenter ?
Non, on ne peut pas dire ça. Justement, dans l'action de notre syndicat, aujourd'hui, on vient de confectionner un petit livret pédagogique qui est dédié à la fois à tous les clients, mais qui est dédié aussi au grand public. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on achète un litre d'eau, le prix moyen en France, c'est 0,02 euros. Une bouteille qui est achetée dans le commerce d'eau minérale, c'est 0,28 euros le litre. C'est 140 fois plus cher. On focalise sur le prix de l'eau au robinet, qui est toujours trop cher, mais c'est rien du tout par rapport à tout un tas d'autres biens de consommation. On a aujourd'hui, c'est la somme qui est consacrée pour une famille par jour pour l'eau, c'est 1,20 €. C'est dérisoire par rapport au coût d'un loyer, au coût de l'alimentation, au coût de la téléphonie, vous voyez tous ces sujets-là. Donc déjà, on ne peut pas dire que l'eau est chère. L'eau n'est pas chère. C'est dans l'esprit de tout le monde, c'est un bien qui doit être à disposition de tout le monde.
Vital, oui, bien sûr.
Mais cette eau-là, vous comprenez bien qu'elle est pompée, elle est distribuée, il y a des raisons qui sont posées, donc il y a un coût. Mais le coût reste quand même très très raisonnable, puisqu'on parle de 1,2 euros par foyer, par jour.
Michel Réguillon, c'est l'enjeu de demain ?
L'enjeu de demain, c'est d'éviter ce qui s'est passé cet été et que ça s'aggrave. Donc l'enjeu de demain, c'est qu'il faut absolument préserver les ressources que l'on a et qui diminuent chaque année. Donc, vous avez raison tout à l'heure, il faut trouver des solutions pour l'économiser, c'est sûr et certain. Mais il faut aussi trouver des solutions pour rendre nos réseaux de plus en plus fiables et avec un rendement de plus en plus important. On n'ira pas jusqu'à 100%, mais aller jusqu'à 95%, ça nous laisse 15 points d'écart. Et ces 15 points d'écart, on peut les rattraper avec des investissements supplémentaires.
À votre disposition, le nouveau livret « L'eau en 5 questions », un livret présenté lors de la 20e rencontre régionale de l'eau et de l'assainissement. Fin de notre édition. N'oubliez pas toutes les informations locales et régionales en continu sur Quelade, notre page Facebook. Très bonne continuation sur Quelade.